carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Le symbolisme, les intuitions fondatrices. La seconde partie du XIXe siècle a vu l'avènement du symbolisme, un mouvement artistique qui s'est prolongé jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Cette émission de Canal Académie lui est consacrée. Une nouvelle fois, nous avons le grand plaisir de recevoir Michael Francis Gibson, historien et critique d'art, écrivain et journaliste international. Michael Francis Gibson, bonjour.
Bonjour Christa Leuc.
Vous écrivez depuis 30 ans des essais sur l'art pour diverses publications, parmi lesquelles l'International Herald Tribune ou le New York Times. Vous avez également publié plusieurs ouvrages d'art, notamment des études sur Bruegel, Gauguin, Duchamp et Alexandre Calder. Vous nous avez déjà apporté votre savoir et vos lumières au sujet d'une étude très détaillée sur le portement de croix, le fameux tableau de Bruegel au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Et d'ailleurs, je peux vous confier que votre émission a été fort appréciée par les internautes de Canal Académie. Et le livre auquel nous nous intéressons aujourd'hui traite du symbolisme. Vous l'avez publié chez Ta Chaîne. Il est d'ailleurs paru en plusieurs langues, en français, anglais, allemand et japonais.
Je crois, oui, je crois bien.
Formidable.
Je l'ai pas vu.
Donc ce précieux document, à classer parmi les beaux livres, comme on dit, présente l'art symboliste ou cet état d'esprit qui a été illustré par des artistes réputés dans presque tous les pays d'Europe. Et pour donner quelques noms, on peut citer en France, bien sûr, Gustave Moreau, Maurice Denis, Puvy de Chavannes, Odillon Redon. En Belgique, Fernand Knopf et Félicien Rops. Et mentionnons également les Suisses Arnold Böcklin et Ferdinand Hodler, les Allemands Franz von Stuck et Max Klinger, les Anglais Dante Gabriel Rossetti et Aubrey Beardsley, et sans oublier bien sûr l'Autrichien Gustav Klimt ou le Tchèque Alphonse Mucha et le Polonais Stanislav Wispianski et les Russes Michael Vroubel. Alors, en consultant votre ouvrage, on apprend que nombre d'entre eux ont paru sombrer dans le discrédit après la guerre. Et ce n'est que 50 ans plus tard, au cours des années 70, qu'ils ont commencé à connaître un regain d'intérêt. Alors, comment interprétez-vous ces fluctuations ?
Cette question m'incite à faire une observation et à mon tour à poser une question. L'observation, la voici. Le symbole a toujours et partout était présent dans l'art depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours. Alors, la question, pourquoi éprouve-t-on le besoin à cette époque précisément de donner le nom de symbolisme à un mouvement artistique ?
Justement, et la réponse ?
Eh bien, je suis tenté de dire que le symbole lui-même était devenu un problème à cette époque et que la société tout entière entrait dans une grande crise du symbole dont nous ne sommes toujours pas sortis.
Alors, d'où vient cette crise ?
Elle résulte pour une part du grand chambardement. Alors le grand chambardement, en fait, c'est un tableau du peintre belge Henri de Groux, 1893. C'est une sorte d'esquisse à l'huile qui montre, selon moi, toute une société qui prend congé d'un terrain familier et chéri et prend la route de l'exode. C'est un cortège mélancolique et un mélancolique constat qui est central à l'esprit du symbolisme. Dans ce tableau, les émigrants passent à côté d'un enclos renversé. Un crucifix brisé est entouré de statues également renversées. L'enclos désigne, pour moi, le lieu séparé d'une transcendance que rejette justement le positivisme triomphant de l'époque, autrement dit, en gros, la philosophie qui veut édifier toute connaissance sur les sciences dites dures. Le crucifix et les statues symbolisent non seulement le christianisme, mais de façon plus générale, une représentation du monde qui reconnaît une interaction entre plusieurs niveaux de réalité, entre le naturel et le spirituel, ou encore plus largement, entre le concret et l'imaginaire. Mais bon, en réalité aussi, la seconde moitié du XIXe siècle était en train de vivre un exode sans précédent. les développements industriels de la France et des autres pays européens, on parle en Angleterre parce qu'ils avaient déjà un siècle d'avance en la matière, mais ce développement avait créé un immense besoin de main-d'œuvre. Il avait aussi facilité beaucoup le travail des champs, donc il y avait moins de besoin de main-d'œuvre à la campagne et il y avait une grande demande, au contraire, dans la ville. Donc, du coup, il y a eu un mouvement, vidé les campagnes. Mmh. Vraiment, les statistiques sont très éloquentes. Sur 7 personnes nées en milieu rural entre 1850 et 1930, un seul y demeura.
Ah oui, on a pu faire des statistiques.
Un autre parti à l'étranger, oui. Et 5 d'entre eux sont allés dans la ville.
Oui. Alors, tout cela, où cela mène-t-il ?
Eh bien, ça mène au fait que ce que la philosophie sceptique du XVIIIe siècle n'avait pas su accomplir, l'exode rural du XIXe, finissant, a su le faire. La foi traditionnelle, entretenue au quotidien par le tissu coutumier de la vie des sociétés rurales, fut peu à peu érodée. Chacun dans cette campagne avait su qui il était, avait connu sa place.
Bien sûr, oui.
Oui. Et connaissait son identité, sa filiation était reconnue, ce qui était une chose très importante. Et il bénéficiait de la mesure de solidarité et de soutien qui en découlait.
De la communauté locale, oui.
Mais alors, arrivé dans la ville, il se découvrait sans identité, sans filiation.
Voilà.
L'ancienne solidarité ne fonctionnait plus, chacun n'était plus qu'un zéro fondu dans la masse. La société dans son ensemble se trouva complètement repolarisée dans cette situation toute nouvelle. Voilà. Donc en même temps, pour compléter le tableau, l'immigré désarmé se voyait exposé aux abus d'une nouvelle industrie qui était totalement incontrôlée dans la mesure où, du fait de sa nouveauté même, elle fonctionnait dans un vide juridique.
Ah oui. Bien sûr.
Et il n'est guère surprenant donc que le socialisme soit apparu à ce point, non seulement pour revendiquer la justice et le respect de la personne, mais aussi pour élaborer une nouvelle forme de solidarité qui faisait défaut.
Oui, c'est donc un changement total, une mutation radicale de société.
Oui, c'est une mutation et je dirais donc une crise dont nous ne sommes toujours pas sortis. Et nous en sommes d'autant moins sortis que nous n'avons pas encore pris la pleine mesure. Nous pouvons toujours citer le poète, aujourd'hui encore, nous pouvons citer le poète symboliste Jules Laforgue lorsqu'il exprime à la fois sa nostalgie pour l'infini et son scepticisme radical. C'est pas, il a écrit « Infini, d'où sors-tu ? Pourquoi nos sens superbes sont-ils fous d'au-delà des claviers octroyés ? Croit-il à des miroirs plus heureux que le verbe et se tue ? Infini, montre un peu tes papiers. »
Une phrase vraiment remarquable, étonnante. Il faut avoir l'idée infinie, montre un peu tes papiers.
Oui, tout à fait. Nous dirions aujourd'hui que cette attente d'infini, de transcendance, si on veut, est un aspect indispensable de la condition humaine qui est fondée tout à la fois dans le biologique et dans le rêve. Mmh. On peut donc dire que le symbolisme illustre une crise des mentalités. Je songe à ce que disait Georges Duby, le grand médiéviste, n'est-ce pas ?
Oui.
À ce propos, il présente les mentalités comme des systèmes d'images, des systèmes en mouvement, donc objets de l'histoire, et qui, sans que les gens en soient conscients, commandent leur comportement, leur conduite.
Donc, les systèmes d'images.
Les systèmes d'images qui commandent la conduite des gens. Et c'est en somme, c'est le tissu de la culture, n'est-ce pas ? Nous avons des représentations et nous nous comportons en fonction de ces représentations qui sont communes à tous.
Oui.
C'est ça qui permet l'interaction sociale, l'établissement de l'identité, etc.
Absolument, oui. C'est donc vraiment le fondement d'une société.
Oui. Mais alors, le nouveau monde industriel, lui, guidé par l'esprit positiviste qui ne croit qu'aux faits, impose à sa marque sur les mentalités en soutenant que l'esprit scientifique remplacerait inévitablement la pensée théologique et métaphysique. Mmh. Et dans une telle perspective, et dans la mesure où aucun ordre immatériel ou imaginaire n'est reconnu, le symbole qui se réfère à ces choses-là n'avait plus de raison d'être. Et comme se plaignait justement le poète symboliste Gustav Kahn, on sent trop que ces gens ne marchent que pour chercher des ressources et que la source des rêves se tarit.
Vous donnez là vraiment une bonne idée de la situation générale, mais dans le concret, qu'en est-il ?
Eh bien, prenons par exemple la réception que connut une œuvre de Gauguin qui illustre ce point. Gauguin, n'est-ce pas ? Au début de sa carrière artistique, il s'était lié d'amitié avec Pissarro. Et il avait d'abord peint dans le style impressionniste. Il était allé auprès de lui à Pontoise, ils avaient peint ensemble. Puis, après un séjour en Bretagne, il s'était mis à peindre dans un tout autre style. Et il y a une œuvre célèbre de 1888, La lutte de Jacob avec l'ange, qui suscita la vive réprobation de Pissarro, qui lui était anarchiste convaincu et laïque militant. On y voit dans ce tableau un groupe de femmes bretonnes formant cercle avec leurs coiffes caractéristiques et qui observent un homme qui lutte avec une figure ailée au milieu d'un champ, et lequel champ est réduit à un plan uniforme d'un rouge vif coupé en diagonale par un tronc d'arbre. Eh bien, selon Pissarro, Gauguin aurait cédé à l'appât du gain et cherché à séduire les collectionneurs bourgeois en trahissant ses principes. Pissarro ne pouvait être que contrarié, non seulement par le style, mais aussi bien entendu par le sujet. Il s'agissait, selon lui, de représenter le réel et lui seul, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Le style et le sujet de Gauguin étaient une trahison. Mais on peut également imaginer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, que Gauguin évoquait son propre dilemme moral, disons sa lutte avec lui-même, avec son besoin impérieux de peindre qu'il avait contraint à abandonner sa femme et ses enfants pour s'y livrer. Le tableau donne une forme dramatique à un événement de l'âme plutôt que de la nature.
Oui, mais il me semble que le symbolisme reçoit donc à ce moment-là son nom, alors qu'il existait déjà depuis un certain temps, sinon depuis la nuit des temps. Ai-je raison ?
On peut dire que le mouvement symboliste du XIXe siècle commence bien avant le moment où il reçoit son nom, n'est-ce pas ?
Oui.
L'enfant est né un certain temps avant son baptême, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, oui.
Parce qu'il y a des tableaux des années 50 qui sont ou de 60 de Gustave Moreau qui sont dans une veine qu'on appellera par la suite symboliste.
Oui.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le 18 septembre 1886 un article dans le supplément littéraire du Figaro de Jean Moreas, qui était de son vrai nom Yiannis Papadiamantopoulos.
Comment vous dites ?
Yiannis Papadiamantopoulos, il s'appelait.
Mais Jean peut-être Moreas. Peut-être quelques était... racines grecques.
Quelques racines grecques, oui, il faut les travailler, les racines grecques. Dans le Figaro littéraire, il traitait des poètes dits décadents. Bon, alors ceux-ci, affirmait Moreas, mériteraient plutôt d'être désignés du nom de symboliste. La poésie symbolique, dit-il, cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurerait sujette.
Oui, voilà, il faudrait l'imprimer, cette phrase, parce qu'elle est un peu complexe.
La poésie symbolique, la poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible. Et cette forme sensible, néanmoins, ne serait pas le but
d'elle-même,
du poème,
oui,
mais servirait à exprimer l'idée tout en demeurant sujette à cette idée.
Mm-hmm.
Je le paraphrase.
Oui.
Moreas ne parlait alors que des poètes que l'on qualifiait de décadents, mais les artistes trouvèrent aussi leur compte dans ces propos et ils adoptèrent le terme de symboliste.
Écoutez, si vous voulez bien, Michael Gibson, je vous propose une courte pause musicale avant de nous replonger dans les intuitions fondatrices du symbolisme. Nous sommes toujours en compagnie de Michael Francis Gibson, auteur d'un magnifique ouvrage qui traite du symbolisme, qui s'appelle d'ailleurs « Le symbolisme » paru chez Tachène. Et nous avons vu le début de quelques idées ou intuitions fondatrices. Nous avons assisté aussi à la naissance même de la notion du symbolisme par Jean Moréas. Et maintenant, je voudrais vous demander, comment peut-on vraiment caractériser l'art symboliste ?
Eh bien, écoutez, l'art symboliste est plutôt une nébuleuse. Un peintre peut être qualifié de symboliste, tantôt pour des raisons formelles, tantôt pour le contenu de ses œuvres, et tantôt pour les deux à la fois, évidemment. Oui. Mais prenez par exemple Puvy de Chavannes, qui compte parmi ses prédécesseurs. Ses toiles peuvent paraître un peu fades, un œil contemporain, tant par leur coloris que leur sujet, ou encore par l'expression plutôt mièvre qui se lit dans les traits de certains de ses personnages. Et pourtant, il faut lui reconnaître de l'originalité dans l'organisation formelle et simplifiée de l'espace et dans le traitement des surfaces en large plan de couleurs, n'est-ce pas ? Il y a même un dessin humoristique qui montre et représente un tableau le Puvis de Chavannes en disant que le personnage au premier plan est en train de toucher avec son épée le fond du tableau parce qu'il faisait une perspective à plat un peu.
Oui, oui.
Donc, il sera symboliste si on veut, mais surtout dans le sens où il ne s'attache plus, de toute évidence, à une représentation naturaliste ou illusionniste du monde.
Donc presque un précurseur alors.
Oui, c'est ça. Et il était apprécié à cause de ça, évidemment. Donc il amorce une tendance en plus vers l'abstraction qui ira en s'amplifiant à travers l'œuvre et la pensée de divers autres artistes et qui trouve une première expression dans la formulation théorique de Maurice Denis, selon qui toute peinture est une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblée.
Ça paraît simple.
Ça paraît simple, mais c'est fondateur d'une certaine approche de la peinture. Donc, cette conception était venue d'ailleurs à Maurice Denis par Paul Sérusier, qui avait été en Bretagne, qui l'avait appris de Paul Gauguin, le devait à son tour au jeune Émile Bernard, qu'il a rencontré à Pont-Aven à cette époque-là, et qui lui a conseillé...
La fameuse école de Pont-Aven.
Oui, oui, c'est ça. Et le jeune Émile Bernard, qui avait 20 ans, Gauguin en avait 40, et Émile Bernard avait trouvé l'idée d'utiliser les couleurs les plus vives possibles pour peindre un paysage. Et cette suggestion a été l'étincelle qui a déclenché le travail vraiment de Gauguin tel que nous le connaissons. Donc, on peut dire en tout cas que le symbolisme ouvre la voie vers l'abstraction.
Ah oui, mais d'ailleurs, les principaux pionniers de l'abstraction comme Kandinsky, Malevich ou le tchèque Kubka ou Mondrian avaient tous été des peintres symbolistes dans un premier temps, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Le symbolisme tendrait à embrasser tous les artistes qui, par leur facture, s'éloignent de la représentation dite réaliste du monde. Mais l'on y intègre également d'autres, à tort ou à raison, dont la facture est plus académique, n'est-ce pas ? Mais qui sont néanmoins symbolistes par leur idéalisme occultiste ou leur choix de sujet. C'est le cas des Belges, Jean Delville ou Léon Frédéric, par exemple.
N'empêche que ça fait quand même un peu désordre.
Mais oui, c'est vrai. Nous trouvons aussi un certain nombre de cercles qui se chevauchent, plus ou moins, n'est-ce pas ? Toute une partie de cette tendance se teinte de religiosité, parfois dominante catholique, parfois syncrétique ou ésotérique. Mais on rencontre aussi dans le symbolisme une mystique de l'art pour l'art, illustrée par James McNeill Whistler et Stéphane Mallarmé. Bon, le trait le plus frappant des artistes symbolistes, ce qui les distingue des grands artistes religieux des époques antérieures, c'est leur solitude, leur isolement au sein de leur imaginaire, leur solitude de rêveur qui ferait songer à celui de l'être qui, sur une île déserte, se raconte à lui-même des histoires, n'est-ce pas ? Or, comme le dit le poète polonais Mieczysław Jastrun, tu ne saurais construire une église avec une seule brique. Tu ne saurais construire une communauté avec une seule brique.
Oui, mais alors ces deux notions de construire une église ou une communauté et de créer l'isolement au sein de leur imaginaire, ça me semble un peu en contradiction, non ? Y a-t-il un rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'une crise du symbole ?
Mais écoutez, les deux me paraissent vrais. Et c'est sur ce point que les ethnologues nous ont apporté un précieux éclairage. N'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, les ethnologues ? Ils ont commencé à travailler vraiment comme tel au début du XXe siècle. Et au cours d'un long siècle de travail, ils ont démontré qu'aucune société ne saurait subsister en absence d'une construction imaginaire, en absence d'un paysage symbolique commun, si on veut, qui définit l'identité de chacun de ses membres en leur offrant une représentation symbolique de leur origine, de leur destination. Alors, sur ce point, par exemple, Lévi-Strauss, je crois que c'est dans Triste Tropique, raconte l'histoire très significative de l'effort des jésuites qui étaient allés en Amazonie et qui ont eu l'idée de sortir une tribu d'Indiens de leur village rond, n'est-ce pas, et de les mettre dans un village construit selon les principes européens, orthogonal. Les rues se croisent à angle droit. Eh bien, que s'est-il passé? Toute la tribu, peu à peu, est tombée malade et ils sont tous morts. Et la conclusion de Lévi-Strauss, c'était que quand ils vivaient dans leur village rond, ce village rond était pour eux un modèle de l'univers, du cosmos. Et ils s'orientaient psychologiquement et socialement là-dedans. Arrivés dans cet autre endroit, ils n'étaient plus eux-mêmes, ils ne se reconnaissaient plus et ils se sont laissés dépérir. Ça, c'est la...
Une histoire extraordinaire pour
oui, n'est-ce pas,
bien montrer l'importance du symbole ou du symbolique.
Ça me fait penser à la phrase qu'on m'a rapportée d'un philosophe géorgien, Merab Mamardashvili, qui dit « L'homme est une institution symbolique ».
Oui, oui. Mais alors, comment expliquer la crise du 19e siècle européen ?
Eh bien, écoutez, elle était à la fois politique, religieuse et sociologique. L'idéologie scientiste du 19e siècle, le scientisme c'est simplement une forme abâtardie, une pensée vulgaire, une compréhension vulgaire des sciences qui considère que la science peut tout expliquer. Et comme disait déjà Pascal, la science peut dire ce qui est mais non pas ce qui vaut. Donc l'idéologie scientiste du 19e siècle encourageait le mépris à la fois du symbole et du passé, et donc des générations antérieures, et le rejet des pères qui est lui-même inévitablement un acte symbolique.
Absolument.
Si je rejette mon père, c'est aussi un acte symbolique. Ce rejet laisse entendre symboliquement que nous sommes issus de rien. N'est-ce pas ? Songez à la radicale tabula rasa soviétique qui reflétait cette même mentalité. Nous allons créer un homme nouveau. Et nous voyons à quel point, où peut mener cette ambition, bon, non seulement en Union soviétique, mais par exemple dans le cas des Khmer Rouges.
Oui, et qu'en déduisez-vous ?
Eh bien, que l'homme est en effet une institution symbolique, ce qui laisse entendre que toute symbolique est une construction de l'imagination collective au sein de laquelle vient se nicher l'imaginaire individuel. Si l'imaginaire individuel ne trouve pas d'imagination collective, il se trouve désorienté. C'est pas le problème de l'époque symboliste réside là. Son imaginaire collectif était en train de se décomposer sous l'assaut conjoint de la science et du changement social et ne pouvait plus remplir sa fonction indispensable. Bon, alors, les poètes qu'on appelait décadents et les artistes symbolistes résistaient à ce mouvement. Ils exprimaient le désarroi d'un public que le positivisme harasse, comme dit le romancier Joris Karl Huysmans. Tout le monde est conscient d'un nouvel isolement, d'une nouvelle solitude spirituelle, du fait que l'on ne vit plus tous ensemble dans le même paysage imaginaire.
Et finalement, qu'entendez-vous au juste par l'imaginaire collectif ? Est-ce que ça a un rapport avec l'inconscient collectif de Jung ?
Si on veut, c'est-à-dire en un sens, Jung, je ne vais pas trop rentrer dans ça. Mais,
d'accord, parce que l'imaginaire collectif fait un peu penser, bien sûr, à cette notion de Jung.
Si vous allez visiter des tribus au centre de l'Australie, ils ont leur, ou ils avaient, en tout cas maintenant ils sont très influencés par le monde blanc, mais ils avaient leur vision du monde qui s'était développée sur 40 000 ans, n'est-ce pas ? Et qui était très distincte de celui que nous avions, nous, et qui était orienté sur le fait de connaître le monde, enfin, comment ils pouvaient se nourrir dans ce monde qui était un peu pauvre, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
Donc il y avait tout un système de représentation, c'était un paysage mental. Et d'ailleurs, c'était toute leur...
Une culture.
Toute leur culture, voilà. C'était comme ça, oui.
Donc alors, l'imaginaire collectif...
Oui, c'est, en fait, ce que je voulais enchaîner sur une chose, c'était que
oui, dites-moi.
Je pourrais répondre à votre question en citant Napoléon Bonaparte.
Ah.
Alors, que vient-il faire là-dedans ? Eh bien, au cours de sa campagne en Pologne, Bonaparte, qui logeait chez une branche de la famille Potocki, s'était vanté à dîner qu'il tenait le peuple français dans le creux de sa main. Ses hôtes ont apparemment manifesté un peu de surprise, peut-être qu'ils ont été un peu choqués, parce qu'il a éprouvé le besoin d'expliquer. C'est par l'imagination que les peuples se mènent. Et j'ajouterais que c'est par l'imagination que les peuples et les individus se constituent aussi.
Oui, il avait bien vu la force du symbolique, Napoléon.
Voilà, oui, l'idéal, n'est-ce pas, qu'il incarnait. Il y avait une poussée incroyable qu'il avait mobilisée pour la conquête, n'est-ce pas ? Bon, ça laisse entendre bien plus qu'il n'y paraît, et notamment que la légitimité politique, mais aussi la légitimité religieuse et même la légitimité intime de chaque individu trouve son fondement dans une structure imaginaire. Bien, c'est ce qu'on appelle une culture, en somme. Donc Bonaparte avait su mobiliser l'imagination du peuple français et grâce à ça, il avait accompli des prodiges. Et puis cet imaginaire de conquête et de libération a été fauché par la défaite. Mais le principe énoncé par Bonaparte reste vrai. Avant lui, l'islam par exemple, l'imaginaire suscité par Mohammed s'était répandu sur le monde comme une traînée de poudre. Bon, et puis, entre-temps, l'imaginaire chrétien, lui aussi, avait soudé et puis divisé l'Europe. Enfin bon, tout ça pour comprendre la fonction de l'imagination en ce temps-là, il suffit de se représenter les sentiments d'un homme qui se tient debout en tant que fidèle, je sais pas, ou que sujet loyal, debout devant une image de la crucifixion ou encore devant un portrait de l'empereur. L'attitude qu'il aura au XIXe ou au XVIIIe siècle ne sera plus du tout celui de la plupart des gens aujourd'hui. Je pourrais évoquer à ce sujet une histoire.
Oui, c'est-à-dire au sujet de cette représentation d'une autorité, enfin, comme vous évoquiez le portrait de l'empereur ou la crucifixion, enfin l'homme debout crucifié. Vous vouliez raconter une histoire
oui,
à ce sujet
avait, je pourrais citer Paul Celan qui dit « Damals, als es noch Galgen gab, damals gab es ein Droben
».
Autrefois, quand il y avait encore des gibets, à ce moment-là, il y avait aussi un là-haut. Bon, mon histoire, c'est que dans les années 60, début des années 60, j'ai rencontré Hans Arp, Jean Arp. Et il m'a raconté une histoire tout à fait sympathique. C'est qu'il était à Zurich en 1917, il était alsacien, il était parti là pour ne pas faire la guerre. Il avait horreur de cette guerre monstrueuse. Et en 1917, il s'est vu convoquer le consulat allemand et en vue de sa conscription dans l'armée. Donc, on l'amène dans une salle d'attente et là, il y a un énorme portrait de l'empereur qu'il était en train de regarder quand il se rend compte que la porte derrière lui s'ouvre. Tout à coup, il se met à faire des signes de croix répétés. Et il continue à les faire pendant un certain temps jusqu'à ce que la personne derrière lui fasse « Monsieur Arp, s'il vous plaît ». Donc, il va avec ce monsieur qui était le consul. Et le consul lui donne un formulaire à remplir avec son nom, son prénom, sa date de naissance, le lieu de naissance, etc. Et il prend ça gravement avec un stylo et il écrit dans chaque case « Hans Arp, Hans Arp, Hans Arp ». Le consul regarde ça et il lui dit « Bon, nous vous rappellerons ». Et puis, un an plus tard, il se trouve à une fête quelque part et il tombe sur le même consul qui le regarde, lui tape sur l'épaule et lui dit « Alors, monsieur Arp, vous vous sentez mieux maintenant ?»
Et cette histoire, alors, comment vous l'interpréteriez ?
Écoutez, pour moi, l'intérêt du geste de Arp, c'est qu'il nous démontre sur un mode léger la totale décomposition du monde symbolique de l'époque, n'est-ce pas ? Relativement peu de gens aujourd'hui ont chez eux une image religieuse ou un portrait du chef de l'État. Et dans ces conditions, l'art de l'époque symboliste se réfugie souvent dans un monde de rêveurs solitaires, peuplé de personnages androgynes, de monstres, de femmes idéales ou mauvaises et de situations énigmatiques.
Écoutez, j'ai envie de vous poser la question maintenant, quelle image cela peut vous évoquer, mais on va peut-être faire une petite pause. Après, on verra plus en détail les quelques exemples, n'est-ce pas, dans l'histoire du symbolisme. Michael Gibson, avant la pause, vous évoquiez donc ce monde de rêveurs solitaires, peuplé de personnages androgynes, de monstres, de femmes idéales ou mauvaises et de situations énigmatiques. Alors, pouvez-vous nous donner quelques images ou quelques exemples précis ?
Oui, mais ça, il ne manque pas, n'est-ce pas ? Je pense notamment à des artistes comme le Belge Fernand Knopf, avec ces grandes femmes à l'étrange visage, la grande mâchoire, n'est-ce pas, avec les petits traits quand même, et souvent avec un regard dépressif. Ou encore au français Gustave Moreau, qui a créé des complexes scènes mythologiques souvent peuplées de figures androgynes, ou à l'allemand, Max Klinger, dans sa série de gravures illustrant les fantasmes successifs d'un homme qui ramasse un gant de femme sur une patinoire et qui devient peu à peu assez fantastique, n'est-ce pas ? Ça se termine à peu près par... Il y a une scène où on voit une fenêtre brisée par un ptérodactyle qui s'envole en tenant le gant et les bras d'un homme qui passe à travers les vitres pour essayer de l'attraper.
Oui, c'est hautement fantastique.
C'est fantastique. Et puis il y a le Belge Léon Spilliart, un homme tourmenté par l'angoisse et qui peint des scènes nocturnes étranges, n'est-ce pas ?
Oui, l'étrange est d'ailleurs omniprésent dans tous les tableaux du symbolisme. L'étrange et l'insolite.
Oui, oui, mais disons, il y en a certains qui le sont plus que d'autres,
oui.
Je pense.
En effet, oui.
Et puis surtout, notamment, et c'est le cas de l'œuvre douloureuse et terrifiante de l'Autrichien Alfred Kubin, qui vraiment fait toucher du doigt l'épouvante sexuelle d'un homme qui, après une adolescence dépressive, avait tenté de se suicider sur la tombe de sa mère. Et il n'est pas mort parce que le revolver a été rouillé et le coup n'est pas parti.
On pourrait presque dire une ironie de l'histoire.
Oui, n'est-ce pas ? Il a un dessin de lui, d'ailleurs, avec un revolver pointé sur une pierre tombale. Et Ernst Jünger voyait dans son œuvre, des 10 premières années du XXe siècle, l'atmosphère qui précède les grandes catastrophes. Et je devrais ajouter que certaines des œuvres de Kubin reproduites dans mon livre ont tellement offensé et choqué un critique anglais qu'il a dit que l'artiste aurait mieux fait de ne pas les dessiner.
Et vous, vous aviez eu l'audace de les publier.
Et oui.
Donc, ces œuvres, telles que vous venez de le décrire, ne paraissent d'ailleurs pas s'insérer seulement dans l'imaginaire collectif de cette époque. Comme vous venez de le dire, d'ailleurs, elles dérangent même certaines sensibilités aujourd'hui.
Oui, elles sont pourtant arrivées à rejoindre notre imaginaire collectif et même à le former. Je crois que l'expérience historique récente nous a fait découvrir leur pertinence. Mais à l'époque, bon, elle séduisait plutôt, faut-il croire, l'amateur solitaire, plus ou moins névrosé, dans le genre du fictif des Essaintes imaginé par Huysmans dans son roman « À rebours ». Il décalque son riche amateur, oisif, sur le personnage du grand dandy que campait le comte Robert de Montesquieu, qui était également le modèle du baron de Charlus chez Proust. Et dans le roman de Huysmans, ce personnage finit par sombrer dans la dépression, dans une villa bourrée d'œuvres d'art. Donc il y a, évidemment, c'est une façon de représenter l'art symboliste ou l'esprit symboliste, une façon satirique. La satire révèle parfois certains aspects d'une chose. Donc ça, c'était à l'époque et maintenant nous avons un coup d'œil différent là-dessus.
Oui. Est-ce qu'on peut trouver une conclusion à tout ce que vous venez de nous expliquer ?
Oui, on peut dire que le symbolisme représente une tentative totalement paradoxale et qui est pourtant devenue compréhensible à notre époque. De susciter dans la solitude une communauté des laissés pour compte du progrès. Les arts se présentent alors comme un monde parallèle où se réfugièrent aussi bien le fictif des Essaintes que les figures historiques. Le personnage du sens. Ou des figures historiques comme le roi Louis II de Bavière, qui a su reconnaître l'importance de Wagner, mais dont les châteaux délirants ne remplissaient aucune fonction réelle. N'est-ce pas ? Il était dans un rêve. On trouve dans cet art des éléments de névrose ou de folie, mais aussi des traces de certains facteurs spécifiquement culturels et non plus privés qui sont à l'œuvre dans la dépression de l'un et le délire de l'autre. Une névrose qui s'est avérée inhérente à la culture elle-même.
Donc cette névrose qui correspondrait bien à cette, d'abord à cette crise du symbole et aussi à la crise sociologique, si on peut dire, de cette ère industrielle.
C'est ça. De nombreuses œuvres symbolistes ont été plutôt de l'expression d'un malaise ou d'une souffrance à la fois individuelle et collective que l'on commence seulement à décrypter aujourd'hui et dont le caractère principal est d'apparaître dans les parties catholiques du monde industriel européen.
Justement, ces spécificités, on le verra donc dans une deuxième partie où vous allez nous expliquer plus en avant les raisons pourquoi le symbolisme a trouvé son influence principale dans les pays catholiques et dans le monde industriel européen.
Oui, je pourrais même citer à ce propos Walter Benjamin qui dit « Le concept de démoniaque surgit là où celui de modernité entre en conjonction avec le catholicisme. »
Ben voilà, donc une perception qui mérite sûrement plus ample explication. Michael Gibson. Je vous donne rendez-vous donc pour une deuxième émission. Elle nous conduira dans le monde énigmatique des symbolistes à travers tous les pays en Europe, notamment la France, la Belgique, les pays scandinaves, les pays germaniques et l'Autriche, enfin qui est un pays germanique d'ailleurs, etc. Mais d'ores et déjà, nous vous devons un grand merci de vos éclaircissements et la précieuse moisson d'idées que vous venez de nous transmettre. Et je rappelle pour nos internautes le titre exact de votre ouvrage, Le symbolisme par Michael Gibson, paru chez Taschen. Un ouvrage de 250 pages, richement illustré par les œuvres symbolistes d'artistes les plus significatifs. Et en couverture, vous trouvez la Vénus Verticordi de Dante Gabriel Rossetti et au dos l'Ophélie de John Everett Millais, une ville de 1852, sans doute la plus célèbre des peintures symbolistes. Michael Gibson, merci beaucoup.
Merci Christa Legge.